Bisthéâtre.
Les pépites de Vendredi Théâtre, des comédiens, des comédiennes, en direct, nous donnent des extraits des spectacles à l'affiche.
Mis la résol, tout en acier, entouré d'un fil de chrome. Autrefois, c'était du boyau. C'est serrer la corde de sol. Ici, en haut, qu'on joue surtout en solo, quand on en a la possibilité. Ça coûte une fortune, une corde. Je crois qu'à l'heure actuelle, un jeu de cordes, ça vaut près de 160 marques. Quand j'ai débuté, ça en coûtait 48, dingue. Bon, donc, 4 cordes, accordées de carte en carte. Mi, la, ré, sol. Plus une corde de do ou une corde de si pour les basses à 5 cordes. C'est aujourd'hui la règle absolue, depuis l'orchestre symphonique de Chicago jusqu'à l'orchestre d'État de Moscou. Mais avant d'en arriver là... Que d'empoignades, rien n'était uniforme, ni le nombre de cordes, ni la façon des accorder, ni même la taille de l'instrument. Il n'y a que la contrebasse de tous les instruments qui ont autant de modèles différents. Au XVIIIe siècle et XIXe siècle, c'était la pagaille la plus totale. Basse de gambe, grande basse de viol, grand violon à frette, subtraviolon sans frette, accord de tierce, de quarte, de quinte, basse à 3, 4, 6 cordes, 8 cordes, oui, en forme de F ou de C, de quoi vous rendre fou ? Jusqu'en plein 19e siècle, ils ont, en France et en Angleterre, une basse à 3 cordes accordée à la quinte. En Espagne et en Italie, c'est une basse à 3 cordes accordée à la quarte. Tandis qu'en Allemagne et en Autriche, c'est une basse à 4 cordes accordée à la quinte. Bon, après, les Allemands ont imposé la basse à 4 cordes et la corde quarte. Oh, tout simplement parce qu'à l'époque, les meilleurs compositeurs étaient allemands. Encore qu'une basse à 3 cordes ait un plus beau son, ça grince moins, c'est plus mélodieux, c'est tout simplement plus beau. Mais en revanche, les Allemands avaient Haydn, Mozart et les fils Bach, et ensuite Beethoven et tous les romantiques. Oh, eux, la sonorité de la contrebasse, ils s'en foutaient. Pour eux, la basse n'était rien que le tapis sonore où ils pouvaient poser leurs œuvres symphoniques... Bon, lesquels restent jusqu'à aujourd'hui ce qu'il y a de plus grand en matière de musique. Mais tout cela repose sans conteste sur les épaules de la contrebasse à 4 cordes, depuis 1750 jusqu'en plein 20e siècle. 2 siècles entiers de musique d'orchestre. Et c'est cette musique-là qui a balayé la basse à 3 cordes. Laquelle s'est défendue. Naturellement, vous pensez bien, à Paris, tant à l'opéra qu'au conservatoire, on a continué à jouer sur des basses à 3 cordes jusqu'en 1832, l'année de la mort de Goethe, comme... Chacun sait. Mais alors, Cherubini a mis les 3 cordes au rancard. Luigi Cherubini, italien certes, mais plutôt allemand par ses goûts musicaux. Ne juré que par Gluck, par Haydn, par Mozart. Il était à ce moment-là surintendant de la musique à Paris. C'est lui qui a tranché dans le vif. Ce fut un beau tollé, vous pensez bien. Une clameur indignée s'éleva des rangs des contrebassistes français en voyant cet Italien germanophile leur enlever leurs 3 cordes. Il n'en faut pas beaucoup pour indigner les Français. C'est ce qui s'est passé. On sait bien que dès qu'une idée de révolte quelque part, on sait bien que les Français l'adoptent. C'est ce qui s'est passé au XVIIIe siècle. Même chose au XIXe, et ça continue au XXe. Et même jusqu'à maintenant. J'étais à Paris, début mai. Il y avait grève des éboueurs, grève de métro, des coupures de courant 3 fois par jour et une manifestation de 15 000 personnes. Vous n'imagineriez pas dans quel état étaient les rues après. Les magasins saccagés, les vitrines brisées, les voitures, tout est raflé. Et le sol était jonché de tracts et d'affiches et de toutes sortes de papiers. Oh, c'était à faire peur, croyez-moi. Bon, toujours est-il qu'à l'époque, en 1832, ça ne les a avancés à rien. La contrebasse à 3 cordes a bel et bien disparu, et définitivement. Faut dire que c'était plus supportable, cette absence d'uniformité. Non, vraiment, on ne naît pas contrebassiste. On le devient par des voies détournées ou par l'effet du hasard et de la déception. Je peux bien dire que chez nous, à l'Orchestre National, sur 8 contrebassistes, je n'en connais pas un qui n'ait été malmené par la vie et qui ne porte sur le visage les traces de blessures qu'il en a reçues. Une destinée de contrebassiste typique, c'est par exemple la mienne. Un père dominateur, fonctionnaire, aucun sens artistique. Une mère faible, jouant de la flûte et passionnée par les arts. Et l'enfant que j'étais idolâtrait sa mère. Ma mère n'avait Dieu que pour mon père. Mon père adorait ma petite sœur. Et moi, personne ne m'aimait. Je parle subjectivement, bien sûr. Parraine pour mon père, je décidais de n'être pas fonctionnaire, mais artiste. Mais pour me venger de ma mère, je choisis l'instrument le plus grand, le plus encombrant, le moins fait pour jouer en solo. Et pour la vexer quasi mortellement, tout en faisant un pied de nez à mon père dans sa tombe, voilà que je deviens tout de même fonctionnaire. Contrebassiste à l'Orchestre National, troisième pupitre. Voilà pour l'aspect psychanalytique de cet instrument. Seulement, ça sert pas à grand-chose de le savoir, parce que la psychanalyse est au bout du rouleau. Tout le monde le sait aujourd'hui que la psychanalyse est au bout du rouleau. Elle-même est la première à le savoir. Parce que, et d'une, la psychanalyse soulève bien plus de questions qu'elle n'est capable d'en résoudre. Comme une hydre, je parle aux figurés, qui se trancherait la tête elle-même, et c'est là sa contradiction interne impossible à surmonter et qui l'étouffe. Et parce qu'ensuite, la psychanalyse est aujourd'hui devenue marchandise courante, tout le monde le sait. Tenez, sur les 126 musiciens que compte l'orchestre, plus de la moitié sont en analyse. Autant dire que ce qui, voilà un siècle, aura été ou aurait pu être une découverte scientifique sensationnelle, est aujourd'hui tellement normal que personne ne s'en émeut. À moins que ça vous étonne qu'il y ait 10% de dépressifs ? Ça vous étonne ? Moi, ça m'étonne pas. Vous voyez ? Et j'ai pas besoin de la psychanalyse pour ça. Il aurait été beaucoup plus important, puisque nous en sommes à parler de ça, d'avoir la psychanalyse il y a 100 ou 150 ans. Ça nous aurait par exemple évité un certain nombre de choses de Wagner. Car enfin, ce type était un névrotique profond. Une œuvre comme Tristan, par exemple, la plus grande qu'il ait produite, comment est-elle née ? Elle est née uniquement parce qu'il couchait avec la femme d'un ami qu'il a entretenu, lui, Wagner, pendant des années. Des années ! Et cette tromperie, ce comportement minable, le tarabustait tellement lui-même qu'il était obligé d'en faire ce qui est censément la plus grande tragédie amoureuse de tous les temps. Refoulement total par sublimation totale, félicité suprême, gna gna gna. Vous connaissez.
Toutes les semaines, Vendredi Théâtre, l'émission qui assiste au spectacle et prend le temps d'en parler.